Nous avons avec nous en ligne l'ancien juge de la Cour d'appel devenu sénateur. C'est donc l'honorable sénateur Pierre Dalphon qui est avec nous. Bon après-midi, monsieur Dalphon.
Bon après-midi, monsieur Pierre.
Ça va bien?
Très bien, vous-même?
Ça va très bien. Alors, il y a...
C'est quand même une période difficile, la veille des fêtes en plein COVID, mais la vie continue.
La vie continue, oui, et puis on se préserve, n'est-ce pas?
On essaie du mieux.
Alors, sénateur, il y a pas mal de vos collègues qui croient que le nouveau projet de loi, en tout cas la loi C-7, à des aspects d'inconstitutionnalité possible. Il y a des doutes sur la constitutionnalité de ce projet de loi. Et qu'est-ce qu'on peut faire étant donné que les sénateurs se considèrent comme des non-élus, c'est en fait des non-élus, et donc ils n'ont pas autant de droits que leurs collègues de la Chambre basse. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça?
Ah, vous avez plusieurs questions dans votre question, mais elles sont toutes bonnes. Alors, peut-être que je peux commencer par la dernière. Au Canada, on a choisi comme modèle à l'époque, là, en 1867, d'avoir une chambre haute qui est composée de non-élus, mais qui ont les mêmes pouvoirs, à toute fin pratique, que les députés élus à la Chambre des communes. Donc, aucune loi ne peut entrer en vigueur sans avoir été adoptée à la fois par la Chambre des communes et par le Sénat. Il faut se mettre d'accord sur le même texte. Ceci étant, n'étant pas élu, nous comprenons qu'il y a des limites à ce qu'on peut légitimement faire. Et la question de qu'est-ce qu'un Sénat non élu, un conseil un peu peut-être, on pourrait dire, entre guillemets, des sages, on n'est pas tous, mais disons qu'on essaie d'être des sages, peut faire. Alors, je pense bien qu'une des choses qui est importante que les gens qui ont écrit notre Constitution voulaient, c'est que, par exemple, les régions, les minorités, les droits fondamentaux soient protégés par les gens qui ne sont pas membres de partis politiques et qui ne sont pas activement pris à se faire réélire, qui ont une certaine distance. Alors, quand on arrive à un projet de loi comme l'aide médicale à mourir, qui touche à des questions extrêmement délicates, qui ont des questions d'éthique, des questions de droit, des questions de philosophie, même des aspects moraux et religieux. Là, je pense qu'on peut faire au Sénat un débat différent de celui de la Chambre des communes, où des partis politiques et des plateformes, et puis aussi des directions de groupe, et puis des positionnements politiques. Alors nous, on n'a pas cette préoccupation-là. Et on peut étudier le projet de loi, surtout un projet de loi aussi complexe que celui-là, d'une façon plus détachée et peut-être plus forte de nos expériences de vie antérieure, parce que la moyenne de l'âge des sénateurs est quand même plus âgée que la moyenne des députés, de l'âge des députés. Alors donc, de regarder ça en fonction de nos perspectives, certains sont d'anciens médecins, anciens psychiatres, moi je suis un ancien juge, il y en a d'autres, c'est des avocats, il y a des gens d'affaires, il y a des gens de travailleurs sociaux, il y a des gens qui étaient impliqués dans la santé, d'autres même dans la politique. Alors, donc, tout ça ensemble, on peut regarder ça avec peut-être une perspective différente et être sensible à certains arguments qui n'ont peut-être pas été assez entendus par les députés aux communes, qui ont mis moins de temps à étudier ça que peut-être le Sénat va en mettre.
Et lorsqu'on parle d'un projet de loi de l'aide médicale à mourir, il s'agit quand même, tous les projets de loi, ou toutes les lois sont des lois sérieuses, mais une loi comme l'aide médicale à mourir est des plus sérieuses. Et là, on parle de discriminer certains groupes, n'est-ce pas, qui n'auraient pas autant de droits. On parle de personnes handicapées intellectuelles ou des personnes mentalement malades, n'est-ce pas? Et là, il est presque certain qu'un tel projet de loi, qui deviendrait loi, connaîtrait des difficultés. D'ailleurs, ce projet de loi, cette loi C-7, a déjà connu des revers devant la Cour supérieure du Québec. Comment protéger tout ça? Comment faire pour éviter d'autres revers à ce projet de loi?
Vous avez de très bonnes questions. le défi est très grand. Il y a, comme vous dites, la loi C-14 qui a été adoptée déjà en 2016 a permis l'aide médicale à mourir pour les personnes qui étaient atteintes d'une maladie incurable et dont la mort était imminente et qui devait malheureusement endurer des souffrances insupportables. Alors, c'était un peu les critères de C-14. Et ça a été contesté devant les tribunaux par M. Touchon et Mme Gladue, qui ont dit que l'exigence que la mort naturelle soit imminente devrait être enlevée. Et c'est ce qu'ils ont gagné par le jugement de la Cour supérieure du Québec, qui a dit que c'était inconstitutionnel de priver de l'accès à l'aide médicale des personnes dont la mort n'est pas imminente, mais qui sont par ailleurs dans un état irrémédiable et qui ont des souffrances qui sont de plus en plus insupportables et pour lesquelles le choix, lorsqu'elles ont décidé qu'elles ne peuvent plus vivre comme ça, n'est que le suicide. Se trouver le moyen de se donner la mort au lieu d'avoir accès à l'aide médicale qui peut être donnée dans des conditions bien meilleures. Et d'autre part, aussi pour ceux qui ont peur de perdre la capacité d'essayer de se suicider dans le but d'empêcher d'attendre encore un certain temps ou ne peuvent plus consentir même à l'aide médicale à mourir lorsque la mort est imminente parce qu'ils ont perdu la capacité de consentir. Alors donc, ça c'est un grand débat. La Cour supérieure a dit qu'il faut enlever l'exigence que la mort est imminente pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Et le gouvernement du Canada, comme celui du Québec, ont tous les deux choisi de ne pas aller en appel de cette loi-là. Ça, c'est un choix politique. Mais c'est sûr que ça nous prive de l'éclairage d'une cour d'appel sur la question et possiblement même d'aller jusqu'à la Cour suprême pour avoir l'éclairage de la Cour suprême sur les limites qu'on pourrait faire. Alors, on n'a pas cet avantage-là. La nouvelle loi est attaquée sous plusieurs angles. Un des groupes qui l'attaque dit que la loi aura un effet discriminatoire parce que selon eux, cette loi-là va rendre l'aide médicale à mourir accessible aux gens qui souffrent d'un handicap sérieux, incurable. Donc, ils y voient comme une mesure qui va envoyer le message à la société que d'être handicapé, c'est une chose finalement qui est moins à valoriser et qu'au lieu de mettre plus d'efforts pour soutenir ces personnes-là, leur donner des soins, des habitations adaptées, etc., on va les pousser ou les encourager à considérer de l'aide médicale à mourir. Je ne pense pas que c'est le but du projet de loi, mais je comprends que pour eux, la loi a cet effet-là dans leur perspective et par conséquent, ça devient discriminatoire envers les personnes handicapées. Ensuite, la loi prévoit que les personnes qui ont des souffrances insupportables et qui sont dans un état irrémédiable, ça ne comprend pas les personnes qui souffrent de maladies mentales. Alors donc, il y a un autre groupe, ceux qui parlent au nom de groupes ou des psychiatres ou des gens qui sont près de ces spécialisés dans les maladies mentales, qui disent « Mais là, vous discriminez. Vous permettez à quelqu'un qui souffre d'une maladie physique qui est incurable et qui cause des souffrances irrémédiables, vous permettez d'avoir accès à l'aide médicale à mourir si les tests sont rencontrés, les évaluations sont positives, la personne a la capacité, elle est bien informée, puis c'est ce qu'elle choisit librement et non pas parce qu'elle est invitée par d'autres à la choisir. Mais ça, vous refusez ça aux personnes qui souffrent de maladies mentales, qui sont par ailleurs, dans beaucoup de cas, des personnes qui souffrent de maladies mentales, et ont la capacité de consentir et d'évaluer des personnes qui ont fait plein de traitements et qui ont même des électrochocs, etc., qui sont rendues à 60 ans et puis qui, à un moment donné, disent « Moi, je voudrais mettre fin à cette souffrance qui est de plus en plus lourde pour moi et puis dont il n'y a pas de solution possible. » Alors, on dit « Pourquoi vous nous excluez ?» Alors, on dit « Ça, c'est discriminatoire parce que vous permettez l'accès élargi à certains, mais vous nous enlevez automatiquement de cet accès-là sous prétexte de nous protéger. » Et ça, c'est de la discrimination. Vous nous traitez un peu comme des enfants ou vous nous traitez comme des personnes inégales. Alors, c'est une autre attaque, mais on voit, il y a un groupe qui attaque parce qu'on élargit, il y a un autre groupe qui attaque parce qu'on n'élargit pas assez.
Et tout ça, monsieur le sénateur, c'est que les politiques, ceux qui élaborent ces lois-là, sont informés de l'état de la situation et veulent, sans vouloir garder la loi intacte. Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de gestes politiques dans le but d'aller chercher une plus large adhésion, parce qu'il y a des groupes, comme vous l'avez dit, justement, qui croient que une loi de cette nature-là, qui est très généreuse, pourrait ouvrir la voie à des groupes de personnes, justement, faisant en sorte que la demande de l'aide médicale à mourir devienne, disons, un petit peu plus accessible ou trop accessible.
C'est une préoccupation très légitime. Et pour moi, l'aide médicale à mourir, c'est une option qui peut-être qu'il faut qu'elle soit offerte plus largement que maintenant, mais pas facilement accessible, dans le sens qu'il faut qu'il y ait des mesures de protection, des critères élevés qui font en sorte qu'évidemment, on ne veut pas qu'une personne qui a un moment de désespoir ou
d'errement.
Et choisissent une solution qui n'est pas la meilleure. Parce que je pense que, pour ne pas se le cacher, là, tous les parlementaires et tous les sénateurs sont unanimes là-dessus, j'en suis certain. La priorité, c'est le droit à la vie et l'obligation pour l'État de faire en sorte que le droit à la vie soit respecté et même qu'on fasse nécessaire pour soutenir les gens qui ont besoin d'aide. Parce qu'elles sont sauf d'un handicap ou parce qu'elles ont besoin de soins, etc. Et puis, il n'y a pas question de changer ça. Mais est-ce que ça va aussi loin par ailleurs que de priver quelqu'un qui, lui ou elle, a choisi, après des années, à 60 ans ou à 70 ans ou à 45 ans, peu importe, à évaluer sa situation et puis dire, ben, moi, j'aimerais mieux mourir dans la dignité, accompagné d'un médecin et d'une infirmière plutôt que de me jeter en bas d'un pont ou m'acheter une arme à feu puis me donner la mort puis de manquer mon coup puis de rester avec des séquelles encore plus graves. Alors, c'est ça qu'on essaie de concilier. Mais c'est sûr que le droit à la vie, c'est le droit le plus fondamental. Puis le deuxième droit qui est important aussi, c'est le respect de l'autonomie des personnes.
Et là, c'est tout le dilemme pour vous, sénateur non élu, face à des élus qui, justement, doivent comprendre, parce qu'ils ont aussi des personnes aussi avisées qu'au Sénat, mais qui veulent maintenir le statu quo. C'est donc un handicap pour vous à vouloir leur dire, peut-être que vous faites fausse route, là.
Ça fait partie des règles, c'est pour ça que l'institution existe. Alors, si c'est pour ça aussi qu'on a plus de temps qu'eux, parce qu'on n'a pas allé dans les circonscriptions électorales, rencontrer les électeurs, puis il y a beaucoup de travail que les députés font en dehors du Parlement, que nous, on n'a pas vraiment à faire, en tout cas à un beaucoup moins de degré, et ce qui nous laisse plus de temps pour analyser, lire, consulter. Alors, évidemment, le statu quo, il y a des gens qui voudraient que le statu quo soit maintenu, mais je pense que la majorité des députés, eux, veulent changer. Ils veulent remplacer le statu quo par un système qui est plus large. Je comprends bien que beaucoup de députés libéraux, bloquistes, néo-démocrates, et même certains conservateurs, mais je comprends qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont opposés à l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir. Mais de façon globale, il semble y avoir une majorité forte à la Chambre des communes qui est pour l'élargissement. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le Sénat ne peut pas recommander des modifications dans les mesures de protection ou dans d'autres types de dispositions du projet de loi pour faire en sorte que l'élargissement se fasse dans des conditions optimales
et dans le respect des droits.
Absolument, absolument.
Absolument.
Et dans la réaffirmation de l'importance du droit à la vie.
Merci.
Là, on retourne ça aux communes. Et les communes, il faut qu'ils revotent à nouveau, qu'ils acceptent notre suggestion ou pas. Et s'ils la rejettent, ça revient à nous et puis on décide si on insiste ou pas. Mais moi, à un moment donné, je suis conscient que nous ne sommes pas élus. Alors, notre travail, c'est de faire de la revision d'essayer d'améliorer le fait de gestion. Et si la majorité claire, l'autre côté, dit on n'en veut pas, ben à un moment donné, il faut s'incliner.
Honorable sénateur Pierre Dalphon, ancien juge de la Cour d'appel, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi.
Ben, je vous remercie beaucoup, M. Pierre.
Au revoir.
Restez en ligne une seconde.
Merci.
Oui, est-ce qu'on a... Vous avez été là justement?
Oui, oui. Okay. Attendez un instant.
Je vais pas en voiture, je vais m'attendre.